Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous prions. Seigneur, voici le jour que tu as fait, jour de joie pour ton Église. Donne-nous aujourd'hui ton Esprit Saint, qu'il se saisisse de chacun, de tous, et nous fasse toutes choses nouvelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous invitons à prendre le premier spontané au Seigneur. Pardon. plus que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes, plus que nous n'avons aimé notre prochain et toi-même. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas changé, de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et nous nous levons pour prendre spontané. Viens, je te prie. Chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons à Dieu notre reconnaissance avec le spontané « Merci Seigneur ».
Je suis ton Seigneur, sans moi, car ça me suffit. 209.
Nous prions avant d'écouter le texte d'aujourd'hui. Éternel notre Dieu, sois notre guide. Conduis-nous dans l'écoute attentive, curieuse, intéressée de ta parole. Que ta parole soit pour nous une source spirituelle pour notre vie. Une source qui nous engage à témoigner et à vivre de ton amour. Amen. Nous avons donc une lecture biblique pour aujourd'hui, pour ce culte dit d'Éphanie, en tout cas pour ce grand culte, même si on n'est pas très nombreux les plus jeunes, mais et moi, je vous prie de m'excuser, je ne savais pas que c'était aujourd'hui, je croyais que c'était dimanche prochain le changement d'heure. Merci à l'équipe liturgique qui a commencé le culte, qu'elle soit musicale ou autrement. Donc le texte d'aujourd'hui, l'image on la voit quand même un petit peu, on y reviendra bien entendu. C'est dans l'Évangile, donc la Bonne Nouvelle, selon Matthieu. Au chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Alors nous allons chanter un cantique. Je pense que vous le connaissez bien puisque vous avez eu le temps de vous entraîner. Je vous propose de vous lever et aujourd'hui encore je vous propose de le chanter à ma place. C'est le 45-14. 45-14. Jésus est au milieu de nous. Nous allons donc parler ensemble de deux sujets qui ont été évoqués au cathé, à l'école biblique. Et donc, vu que vous êtes tous allés, je pense ici au cathé, à l'école biblique, on va se débrouiller entre nous. Les deux thèmes que... Enfin, je ne vais pas parler du deuxième, en fait. Je vais attendre, je vais laisser deviner le deuxième thème. On va oublier. D'abord, le premier thème, donc, vous voyez... Il y a à peu près une image qui reprend de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Cette image, elle parle de quoi? Du
Du baptême.
Du baptême de
Jésus.
Jésus. Très bien. Donc on fait le lien entre le texte qu'on vient d'entendre et la photo, enfin la photo, pas la photo d'époque évidemment, mais une image qui est censée représenter ce baptême. Nous imaginons donc que Jésus est plutôt à gauche ou à droite. Tout est sur les mains de Maëlys et Florent.
À gauche.
À gauche. Pourquoi tu dirais qu'il est à gauche?
Il est toujours à gauche.
Oh, j'y ai même pas pensé. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, je ne l'ai pas dit. Alors, peut-être au niveau de la lumière, non, de la luminosité. Donc, nous imaginons que c'est Jésus qui est à gauche. Pourquoi? Et quel est le symbole de cette lumière qui vient d'en haut? Ouais. J'entends sur ma droite le Saint-Esprit. Peut-être que c'est ça que vous, quoi vous pensez aussi, là, Flore et Maëlys. Et oui, parce que dans cette image et surtout dans le texte qu'on a entendu, mais le texte, il a été écrit il y a plus de 1900 ans. Pas en français, hein. Mais aujourd'hui, on l'écoute en français, c'est quand même plus pratique, hein, quand c'est traduit. Et ce texte, il nous parle d'un événement très important, d'un événement qui a eu lieu dans la vie même de Jésus. Et Jésus n'avait pas besoin, normalement, d'être baptisé. C'est pour ça qu'il dit à son cousin au second degré, il dit on doit le faire. Et Jean, son cousin, lui, il ne comprend pas, mais il va l'accepter quand même. Jésus n'a pas besoin d'être baptisé, contrairement à tout être humain, parce que Jésus, il est lui-même la lumière. Il est un être humain comme nous, mais quand même, il y a autre chose. Il est à la fois un être humain comme nous, et à la fois il est divin. Il est Dieu lui-même. Et c'est, entre autres choses, que le texte qu'on a entendu et un petit peu l'image que nous voyons essaye de nous montrer. Et l'image, j'ai pris l'image un peu petite. Nous avons donc entendu l'histoire du baptême. Et à travers l'histoire du baptême, il y a aussi un animal en plein milieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous, quand on célèbre un baptême, vous ne voyez pas des animaux, enfin j'espère. Bon, évidemment, s'il rentrait un chien ou un chat, ce ne serait pas très grave. À une époque, il y avait des animaux dans les temples et dans les cathédrales qui rentraient. C'était pas un souci. Il n'y avait pas les micros, je ne sais pas comment il dit. Enfin, bon. On a entendu un animal. Pourrez-vous me dire quel est cet animal si particulier? La colombe. C'est quoi une colombe? Je ne sais pas. Bon. C'est comme un cheval, comme... Un hippopotame,
un oiseau.
Et la colombe, donc effectivement, alors peut-être pas trop, mais avec la lumière qui est en haut, on peut imaginer qu'elle est par là. La colombe, on la retrouve dans la Bible. On la retrouve au tout début. Elle symbolise, alors la plupart du temps, pour la plupart des gens, c'est la paix. Mais dans la Bible, c'est encore autre chose. C'est la libération. C'est la liberté. Parce que la colombe, elle est envoyée aussi par Noé pour voir si enfin il n'y a plus d'eau. Et à un moment, la colombe, elle s'en va parce que ça y est, elle a trouvé un endroit pour se poser. Donc on peut se poser, on peut vivre dans la liberté. Cette liberté, elle ne vient pas de nous. Cette liberté, elle vient de Dieu lui-même. Et donc, la colombe aussi représente une autre manière qu'a voulu utiliser Dieu pour se présenter à nous. C'est deux mots avec un tiret au milieu. Saurez-vous le deviner? On a Jésus qui est le Fils. On a une voix qui vient du ciel. On peut dire que c'est la voix du Père. Et nous avons encore une autre manière de parler de Dieu. En deux mots, avec un tiret au milieu. Oui? Le Saint-Esprit. Très bien, voilà. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie que Dieu nous donne. Jésus, c'est le Fils. Ou, pour nous, on pourrait dire, étant donné qu'il est un être humain, c'est comme un frère pour nous, un grand frère pour nous, quelqu'un qui nous guide. Et la voix du Père, c'est le Dieu qu'on ne peut pas voir, le Dieu invisible. Vous savez, quand on parle de Dieu, on ne peut pas le représenter. D'ailleurs, on ne doit pas chercher à le représenter parce qu'on va forcément se planter. C'est pour ça que Dieu lui-même est venu à travers un être humain qui nous ressemble, Jésus. Et que Jésus lui-même est passé par le baptême, alors que Jésus est le seul être humain totalement innocent. Donc il n'avait pas besoin du baptême. Parce que le baptême symbolise la conversion, c'est-à-dire un appel à ce que chaque jour de notre vie, et pas seulement le jour de notre baptême évidemment, nous essayons de changer en mieux, de nous améliorer. Et cette amélioration, eh bien, Dieu nous aide. Alors, il y a des mots plus théologiques, sanctification, bon, voilà. Mais pour le dire de manière plus claire, c'est le changement chaque jour. Et c'est pour ça aussi que, lors des cultes, le dimanche, eh bien, il y a un moment aussi qu'on appelle, voilà, on demande pardon, puis on annonce aussi que, voilà, on est pardonné. C'est pour nous inciter à changer en mieux chaque jour. Et le baptême, vu qu'il y a de l'eau, ça fait penser à un nettoyage. On a besoin de se laver, sinon on est vraiment sale. On a besoin de se laver, de faire partir toutes les saletés. Et le baptême symbolise aussi que grâce à Jésus, eh bien, il nous aide à faire partir de nous toutes les saletés, mais pas sur le plan physique, bien sûr, mais spirituelles. Toutes les choses mauvaises qu'il y a en nous. C'est-à-dire des pensées mauvaises contre les autres, se croire au-dessus des autres, juger, etc. C'est très facile, hein, chaque jour on peut faire ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler, quand on a été baptisé, que ce baptême, que souvent on choisit à juste titre nos parents pour nous, ou peut-être qu'on a choisi, qu'on va bientôt faire, ça demande une petite préparation, bien sûr, n'est-ce pas Fleur ? On préparera ça ensemble. Eh bien, chaque jour, on essaye d'assumer notre baptême. C'est pour ça que, pour ceux qui sont petits, ceux qui étaient bébés, il y a la confirmation après, pour ceux qui le choisissent. Pour dire, voilà, je n'ai pas choisi mon baptême, je n'ai pas choisi cet appel au changement, aujourd'hui, je le choisis. Aujourd'hui, je dis oui. C'est comme si c'est moi, finalement, qui avais choisi d'être baptisé. Ce n'est même plus mes parents, on n'en parle plus, c'est moi. C'est mon choix personnel, mon engagement personnel. Alors donc, à travers cette histoire du baptême, Jésus veut nous montrer aussi qu'il est proche de nous, que lui aussi finalement, il se fait baptiser, comme pour ceux qui se disent chrétiens, c'est-à-dire ses disciples. Alors maintenant, on va voir une autre image, peut-être on peut, merci Bernard, avancer sur une autre image. Parce que je vous ai dit qu'il y avait un thème, je vais vous faire un peu deviner. Alors, alors là, on peut se dire, oula, il nous parle de quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On parlait du baptême, maintenant on a des symboles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous vous souvenez, on a dit que dans cette histoire, et aussi un peu dans l'image, il était question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire trois manières par lesquelles Dieu agit dans le monde, dans notre vie, même s'il ne s'impose pas à nous. On peut aussi très bien dire non, c'est un Dieu de liberté que nous confessons. Père, Fils et Saint-Esprit, pour être honnête, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Ça fait partie des choses difficiles, un petit peu de la théologie. Mais pourtant, c'est un seul Dieu. Alors maintenant, ce nom-là, pour définir qui est Dieu, dans toute l'Église chrétienne, c'est-à-dire qu'on soit protestant, évangélique, catholique, orthodoxe, tous les chrétiens qui existent. Il y a un nom pour ça. Un nom un peu compliqué, mais peut-être vous l'avez déjà entendu. Ça parle d'unité et à la fois de trois. Trois en un. Trinité. La Trinité, c'est un mot un peu compliqué. C'est aussi pour ça que, bon, on va le retenir. Parce qu'il faut avancer, il faut apprendre des choses aussi tout au long de notre vie. La Trinité, c'est le mot que l'on utilise pour dire que tous les chrétiens, nous essayons d'avoir confiance en Dieu, et que ce Dieu, c'est pas simplement le Dieu invisible qu'on ne voit pas, c'est aussi un Dieu qui agit par son esprit, et qui est venu dans le monde à travers Jésus, qu'on appelle aussi le Fils. Et donc, il y a eu depuis le début du christianisme des symboles, des dessins, pour représenter des peintures, des icônes, pour essayer de faire comprendre qui est ce Dieu qu'on appelle trinitaire. Alors, je vous propose, nos deux plus jeunes, de voir dans ce grand cercle, qu'est-ce que vous voyez dans cette image ? Et puis, c'est pas grave si on se trompe, on fait pas un concours, nous sommes en famille. Hein. Avec la liberté de ton qu'on a déjà utilisée tout à l'heure, et ça fait plaisir. Oui, Maïs ? Une colombe. Tiens donc, la colombe, ça ne nous rappelle pas le texte de tout à l'heure. La colombe qui représente le Saint-Esprit. Très bien. La colombe, donc, tu la vois où ? En haut, à gauche, à droite. Voilà. Ensuite, nous avons deux autres symboles. Il y en a un qui est un peu facile, l'autre qui peut être un peu plus difficile. Voilà, nous avons le symbole de la croix qui est déjà dans le cercle mais que nous retrouvons en bas à gauche. Et donc nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Fils, et donc par déduction, forcément, en haut nous avons le Père. Voilà. Alors, cette représentation qu'on trouve souvent au XVIIIe siècle, peut-être moins aujourd'hui, bien sûr, le triangle, qui est lui-même un symbole de la Trinité, d'ailleurs, et un œil, qui a parfois des connotations négatives, mais pas là, bien sûr. Il n'y a pas de superstition. C'est-à-dire, pour le dire vite, quand on est croyant, on a peur de rien. Ça ne veut pas dire qu'on se croit surpuissant, hein, je n'ai pas dit ça. Mais on essaie d'avoir confiance en Dieu, donc on n'a pas peur de l'avenir, etc. Donc l'œil ne doit pas nous faire peur. Ce n'est pas Dieu qui nous surveille. Ça, ce n'est pas le message de la Bible. Mais c'est sa présence, malgré tout, une présence invisible. Et peut-être on va juste regarder aussi la dernière image. Alors, non, c'était la seule alors ? Alors, attends. Ouais, l'ordinateur est lui aussi en mauvaise santé. Il a un grand âge. Et merci Bernard. Oui, alors là c'est encore pire parce que c'est tout petit. Et bon, alors là en fait nous avons au milieu un cercle qui marque Dieu. On a ensuite Fils, on a Père et Saint-Esprit. On ne pourra pas faire plus grand que ça.
Si je pouvais le grandir.
Ouais. Normalement c'est ici. Mais vu que j'ai pris ça sur un... Ah, merci Bernard. Heureusement on a des bons techniciens. Hein. Eh ben dis donc. Voilà, ça c'est l'Église. Chacun a une identité et c'est bon pour tout le monde. Donc Dieu au milieu, comment expliquer qui est Dieu ? Donc on a Dieu et le Fils, vous voyez, en haut à droite. Dieu et le Père, en haut à gauche. Dieu et Saint-Esprit, en bas. Mais en même temps, quand on fait le grand tour du cercle, il y a marqué « Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Le Père n'est pas le Fils et le Père n'est pas le Saint-Esprit. » Alors, ça paraît un peu compliqué, mais pourtant, c'est de résumer comment on peut expliquer dans un langage à peu près compréhensible ce Dieu qui se manifeste de trois manières différentes. Donc, on a bien compris, nous ne croyons pas en trois dieux, en trois divinités qui se bagarreraient, on croit en un seul Dieu qui se montre de trois manières différentes à nous, et trois manières utiles. Et donc ça se voit et ça s'entend au moment du baptême. Et lorsque nous célébrons, ici même, ou d'ailleurs n'importe où dans une confession chrétienne, le baptême, eh bien à un moment, que dit la personne qui baptise ? Si vous l'avez déjà entendu, que ce soit d'ailleurs ici ou ailleurs, hein, qu'est-ce qu'on dit, que ce soit un pasteur, un prêtre ou une autre personne ? Il dit donc, alors ça peut être un bébé ou quelqu'un d'adulte, ça peut être une enfant. Il dit donc, je te baptise, mais particulièrement, on dit au nom de du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien justement, voilà pourquoi on dit cela. C'est pas pour inventer quelque chose. Si on dit cela, c'est justement parce que c'était Jésus lui-même qui l'avait demandé aux premiers chrétiens. Jésus qui a été baptisé, ensuite quand il est reparti dans une autre dimension, dans un autre monde spirituel, eh bien, il nous a laissé le travail, la suite, la mission, comme on dit. Et dans cette mission, il a annoncé la parole, il y a l'entraide avec les gens qui sont nécessiteux ou qui sont malades, il y a visité les gens malades, les prisonniers, etc. Et puis il y a aussi célébré le baptême et la communion, c'est-à-dire quand on partage le pain et la coupe. On appelle ça des sacrements. Et donc si nous disons que le baptême est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pour simplement respecter ce que Jésus lui-même nous a demandé. Et c'est ainsi, quand on essaye, ce qu'on essaye finalement toute sa vie d'être chrétien, eh bien, c'est de respecter ce que Jésus nous a demandé. Pourquoi ? Parce que c'est bon pour nous. Et c'est un appel, encore une fois, à essayer d'être bon avec les autres. Voilà un des messages, un des thèmes finalement très théologiques hein, que nous avons abordé. Si on essaye d'être chrétien, c'est pour essayer d'être bon avec les autres, parce que Dieu est bon avec nous. Alors que ce message puisse toujours nous porter. Amen. Essayez de comprendre. Et ce cantique, il est très pédagogique, il raconte des histoires de la Bible, il est très joli. C'est le 52-09. 52-09, il est une fois. Alors pas il est une fois avec un S pour raconter une histoire, quoique ça raconte une autre histoire. Il est une fois sans S, mais étant donné qu'il y a beaucoup de strophes, nous ne les chanterons pas forcément toutes. Nous chanterons en l'occurrence, les strophes 1, 7 et 8. 1, 7, 8 du 52-09. garde la bonne note grâce à nos musiciens. Alors maintenant, on va rester debout pour écouter un petit texte. Vous savez, on a l'habitude, après ça dépend aussi des personnes qui célèbrent le culte, c'est la liberté du liturge et du prédicateur, d'écouter, ou plutôt de dire, le symbole des apôtres. Vous savez, ce très ancien credo qui résume un peu la foi des chrétiens, la foi trinitaire des chrétiens. Mais c'est vrai qu'il est bon aussi d'entendre des textes plus récents, avec des mots un peu plus d'aujourd'hui, pour comprendre et pour nous appeler à réfléchir et à nous poser la question de notre propre foi, de notre propre engagement. C'est bien d'entendre des mots un peu plus récents sur ce symbole des apôtres. Donc maintenant, et grâce à la préparation qui a été faite par les monitrices avec nos plus jeunes, nos jeunes, eh bien, nous allons maintenant écouter une parole de confiance. C'est un synonyme de confession de foi. Parole de confiance. Avec, bien sûr, nos deux jeunes monitrices.
Je fais confiance en Dieu, celui que l'on appelle Père. Je lui fais confiance parce qu'il est à l'origine de tout ce qui existe. Ce que je vois, ce que je ne vois pas, ce que je comprends, ce que je ne comprends pas.
J'ai confiance en Jésus, celui qu'on appelle Fils. Il est un être humain comme moi. Je lui fais confiance parce qu'il me ressemble. Il a été enfant, adolescent, adulte. Et pourtant, il est un peu plus que ça. Il est un être humain comme nous, mais il est métis.
Oui, à la fois humain et divin. Il est humain par sa mère, une adolescente très croyante et courageuse, appelée Marie.
Il est divin par une force divine qui l'a fait exister. Je lui fais confiance parce qu'il est vivant.
Pourtant, il était bien mort en avril de l'an 30. Dans la ville des Juifs, Jérusalem.
Un pays dominé alors par les Romains, le représentant sur place s'appelait Ponce Pilate. Oui, il a été mort, il a été condamné à mort, lui, le seul être humain innocent.
Mais il est revenu à la vie, il a transmis la flamme de l'espérance aux premiers chrétiens. Cette flamme existe toujours et elle est proposée à tous les êtres humains.
Cette flamme de confiance, elle nous est donnée par Dieu. Cette flamme divine s'appelle le Saint-Esprit.
Après sa résurrection, Jésus est parti dans un monde spirituel. Je crois qu'il est présent grâce à cette force divine qu'est le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit a été une force pour la confiance des premiers chrétiens et une force pour nous aussi.
J'ai confiance en cette force divine. Elle a guidé les écrivains de la Bible.
Cette force unit tous les chrétiens malgré les différences. Cette force nous met en lien avec Jésus et tous ceux qui ont confiance en lui.
Cette force que nous donne l'amour de Dieu, elle nous permet d'être pardonnés et de pouvoir pardonner.
Elle nous relèvera de la mort et nous fera vivre dans un autre monde.
En attendant, j'ai confiance en Dieu, un Père qui aime tous ses enfants.
Un grand frère, Jésus pour nous guider dans la vie.
Une force, l'Esprit Saint pour nous rendre forts dans l'amour de Dieu, en prenant soin des autres et de nous-mêmes.
Un seul Dieu appelé Père, Fils et Saint-Esprit, pour moi c'est tout.
Alors nous pouvons chanter notre réponse. Nous avons entendu parler tout à l'heure, notamment de la colombe qui symbolisait le Saint-Esprit. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans notre temple, est-ce que vous avez déjà vu une colombe ? Évidemment, je m'adresse un peu aux plus jeunes, parce que pour les autres, vous êtes élus. Oui, ici. Ouais. Dans la salle à côté, d'accord. Et ici même, oui, la chaire. Oui. Et oui, dans notre temple, nous avons bien sûr le symbole qui définit un peu le christianisme, la croix. C'est la croix sur laquelle Jésus n'est plus là. Jésus n'est pas représenté pour l'Église protestante parce qu'il est ressuscité, il est présent parmi nous. Mais nous avons aussi donc la colombe qui est là-bas pour symboliser l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, Dieu en action, énergie divine, on a entendu parler de flamme tout à l'heure, qui nous inspire, c'est-à-dire qui peut nous aider à bien utiliser notre intelligence, notre réflexion pour essayer de comprendre ce monde et peut-être un peu de l'améliorer aussi. Mais alors, quand on parle de colombe, nous allons maintenant préciser les choses. Tout à l'heure, on a entendu parler, on a vu quelques symboles pour parler de la Trinité. C'est-à-dire que tous les chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à une église, ça représente 2,3 milliards d'êtres humains. Je n'ai pas dit engagés, hein, j'ai dit membres d'église, hein, on s'est compris. Mais enfin, c'est pas mal, c'est la première religion numériquement dans le monde. 2,3 milliards de chrétiens. Mais ceci est un symbole qui est typiquement pour le protestantisme français. Est-ce que vous connaissez ceci, les plus jeunes ? Oui, ça s'appelle comment ?
La croix
et guenotte. D'accord, c'est ça. C'est ça, c'est la croix et guenotte. Très bien. Et dans la croix et guenotte, vous repérez donc facilement un oiseau qui s'appelle la colombe, qui représente le Saint-Esprit. Très bien. Voilà, l'énergie divine. Et donc ceci est le symbole, un signe de reconnaissance qui a été créé. Alors il y a plusieurs histoires, c'est pas toujours très très clair, hein, l'origine exacte de la croix huguenote, mais on parle du soit début, soit milieu du XVIIe siècle, donc dans les années 1600, avec Nîmes, une bijouterie. Et donc ce symbole-là était un symbole qui avait deux raisons qui pouvaient être contradictoires. Une raison qui était qu'à l'époque, il était interdit aux protestants de faire partie d'un ordre qui s'appelait l'ordre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y avait la colombe. Et la colombe, elle était au milieu. Et quand vous regardez dans le livre d'histoire des portraits de rois de France ou de nobles, ils avaient une croix qui ressemble à celle-ci, souvent à 5 branches, et la colombe était au milieu, l'ordre du Saint-Esprit. Mais il était interdit aux protestants de faire partie de cet ordre-là. Alors, pour une manière un peu provocatrice, un peu pour narguer, on a repris quand même ce symbole en mettant la colombe en bas, parfois en haut, pour dire que nous aussi, eh bien, nous faisons partie de cet ordre-là. C'était un petit peu de la provocation. Et en même temps, il y avait un certain respect pour l'ordre de l'époque qui s'appelait la monarchie. Et ce respect, on le trouvait en ayant gardé des petits symboles, il y en a 4, qui s'appellent fleurs de lys. Ça, c'était le symbole de la monarchie française. Donc il y avait à la fois un respect et en même temps une manière de dire « on est chez nous ». Et voilà, on prend quand même le droit qui est le nôtre. Et puis il y avait aussi d'autres symboles qui ont été plus spirituels, avec, vous voyez, les cercles noirs qui sont autour. Et bien ça, c'est quand on a un texte dans l'évangile de Matthieu, où Jésus dit « heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui sont persécutés, etc. » Et il y en a 8. Et donc, ces cercles noirs, ça pouvait symboliser aussi, ces points noirs pouvaient symboliser les 8 béatitudes, c'est-à-dire les 8 paroles de Jésus où il dit qu'on peut être heureux, on peut être dans l'espérance, même dans les moments les plus difficiles. Donc cela a du sens. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous avez des gens qui portent la croix et le note. Alors pour nous, c'est un signe de rattachement au protestantisme. Et juste pour terminer, il se peut, j'ai dit que c'était typiquement français hein, tout à l'heure, mais il se peut que vous voyez pourtant ce genre de croix en Italie, chez les protestants italiens, parce qu'ils ont un lien avec l'histoire de France. Il se peut que vous voyez cela à Berlin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à Berlin, la capitale de l'Allemagne? Et oui, parce que quand les protestants français ont été persécutés entre 1680 et 1685, et ensuite avec la révocation de l'édit de Nantes, une partie sont allés à l'étranger, 300 000 chaussures, dont une petite ville à l'époque qui faisait 6 000 habitants, qui s'appelle Berlin. 6 000 habitants, vous voyez, à l'époque, à la fin du XVIIe. Eh bien, ils ont apporté leur croix avec eux, ils ont été accueillis par le prince protestant de là-bas, qui, évidemment, ne parlait pas français, mais qui les a accueillis quand même. Et donc, ils ont apporté avec eux la langue française. Il y a des cultes qui ont été célébrés en français jusqu'au début du XXe siècle, à Berlin. C'est arrivé. Et donc, on retrouve sur certains temples, comme on dirait chez nous, à bord de l'église, eh bien, une croix huguenote en pleine ville de Berlin. Parce que certains de vos ancêtres, en l'occurrence, eh bien, en sont partis là-bas. Et d'autres sont partis en Afrique du Sud, aux Amériques, etc. Donc la croix huguenote, quand vous voyez ce symbole, c'est un symbole, bien sûr, d'abord religieux avec le Saint-Esprit, la colombe. C'est une manière de se rattacher aussi à une histoire qui a un aspect très lourd et une histoire qui, finalement, n'est plus seulement une histoire française, mais une histoire européenne et même, on peut dire, mondiale. Voilà, donc quand vous verrez cette croix, quand on vous demande si vous la portez, si vous l'avez, c'est bien de la porter. C'est discret, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre des lois de la République. C'est quand même discret, une petite croix et huguenote, on peut la porter. Bon, toute petite, ça dépend de l'interprétation des lois. Ça dépend de l'interprétation des lois. Et donc, quand on vous demandera, eh bien, vous pourrez expliquer, c'est un symbole du protestantisme français. Voilà. Et nous, c'est un petit rappel. Mais maintenant, il est temps de passer aux annonces. D'abord, en remerciant notre équipe musicale qui devait être un peu plus nombreuse, mais Nathaniel est malade. C'est comme ça, ça nous arrive tous. Merci à l'équipe technique qui a dû faire face, pas à l'improvisation, mais ça a été comme ça d'un coup. Pour la semaine qui arrive, bien sûr, c'est une semaine très particulière, vous le savez, puisque c'est ce qu'on appelle la semaine 5. Mais d'abord, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Vous savez, nous avions une assemblée générale Je parlais tout à l'heure d'appel, voilà. Et donc je vous propose de poursuivre donc notre réflexion, et je dirais un peu notre souci, le mot n'est pas trop fort, par rapport à la suite même de notre église, la suite de notre paroisse, avec cet engagement nécessaire de nouvelles personnes pour venir au conseil presbytéral. Donc, nous aurons besoin de passer le relais avant le très grand changement qu'il y aura en 2020. Donc, c'est l'occasion, et certains aussi vont venir voir à l'intérieur comment ça se passe. Donc, je vous invite à réfléchir, si ce n'est pas pour vous-même, ce n'est pas forcément une question qui s'adresse personnellement à vous, mais à travers vous, de peut-être avoir du discernement. Nous avons eu une personne qui a été proposée, et nous allons voir avec cette personne, on ne sait pas trop encore, mais peut-être ça donnera quelque chose. Donc peut-être à vous aussi de nous aider, d'aider le CP actuel à discerner des personnes qui pourraient, selon vous, avoir voilà, cet engagement au service de tous. Puisque vous le savez, c'est le conseil presbytéral qui est le gouvernement, si l'on peut dire, d'une paroisse, d'une église locale. Donc j'invite voilà, à poursuivre entre vous, chez vous, en discutant aussi, eh bien, ce discernement. La semaine qui vient donc, qu'on appelle la semaine sainte, car nous allons toucher à ce qui est le plus important, c'est-à-dire la résurrection de Jésus, la fête de Pâques. Mercredi, il y aura le culte, donc à 16h30, à l'hôpital de Mons. Jeudi, qu'on appelle le jeudi saint. Le culte aura lieu à 18h30 au temple d'Intres. Donc au temple d'Intres. Bien sûr, c'est pour toute notre paroisse, ça se passe à Intres, nous sommes tous invités, c'est la même paroisse. Vendredi à 15h, ici même, nous aurons un temps de méditation, de célébration écuménique. Je savais, c'est devenu aussi une tradition, une bonne tradition. Chaque année, on tourne, une année à l'église, une année au temple. Donc cette année, c'est ici au temple, à 15h, donc, avec, le collègue, avec Jean-Michel, le vrai Jean-Michel. Et à 18h30, nous avons le culte du Vendredi Saint à Mars, au temple de Mars, 18h30. Dimanche prochain, alors bien sûr, c'est le jour de Pâques. C'est le jour le plus important de toute l'année, encore plus important que Noël, même si on ne s'en rend pas toujours compte a priori. Donc on est tous invités, on invite tout le monde, et puis là, on va avoir quelque chose de pratique. C'est-à-dire qu'on a parlé aujourd'hui, entre autres, du baptême. Eh bien, il va y avoir deux baptêmes dimanche prochain. Deux sœurs, et deux sœurs qui se ressemblent beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des jumelles, oui. Ce sera le baptême de Yaël et d'Eniris Picot, les deux jumelles. Donc ce sera l'occasion de se réjouir encore plus pour cette grande, on peut dire, famille. Et puis pour ceux qui le peuvent aussi, c'est beaucoup plus tôt, je vais essayer d'y être. À 6h, nous avons donc l'aube de Pâques chez les diaconesses. C'est un moment particulier, le jour qui se lève, donc le Christ qui se relève de la mort à la vie, etc. Donc cette année, toujours 6h chez les diaconesses. Et c'était le pasteur Ralph Rauschiger qui était prévu, mais j'ai eu un appel des diaconesses. Il est en arrêt, donc ce sera moi. Mais ce n'est pas pour moi qu'on vient, ni pour qui que ce soit. Je nous invite à y aller, si on peut. Ensuite, on se requinque. Il y a un petit déjeuner, qui est un gros déjeuner même, à la Grangette. Et puis comme ça, après, on a des forces pour le culte, ici même. Nous allons prendre le temps maintenant de l'offrande. Et la prière de maintenant s'appelle la prière d'intercession. Ce grand mot un peu difficile. Est-ce que vous savez ce qu'est une intersection? Quand il y a un carrefour, je ne parle pas de la marque, je parle de... Il y a plusieurs routes, plusieurs panneaux, on ne sait pas toujours où aller. Bon, il suffit de savoir lire aussi, hein, parfois ça aide un peu, le GPS aussi, pour aller vers telle ou telle direction. Il y a plusieurs chemins, comme il y a des gens très différents. Et la prière d'intercession, c'est un peu comme ça. C'est essayer aussi de penser aux gens qui ne sont pas comme nous et de prier pour eux. Prier, ça veut dire parler à Dieu, tout simplement. Et c'est important à ce moment-là, donc, d'avoir un temps, je dirais, presque de concentration, du moins de silence, de calme, d'être au calme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de bruit, et aussi d'être au calme à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a tout le temps des pensées, pense à plein de choses, positives, négatives, etc. Et c'est important de faire un peu le vide, de faire le calme en soi-même. C'est aussi pour ça qu'il y a la tradition dans les églises protestantes de fermer les yeux quand on prie, qui n'existe pas forcément dans d'autres églises. Prenons le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment où nous nous retrouvons tous ensemble. Mais nous voulons aussi te demander de veiller sur les personnes malades, de les protéger. Éternel, nous avons rappelé ici la force spirituelle, l'énergie divine. Aide-nous à vivre de cette énergie pour la transmettre aux autres. Donne-nous cette énergie pour être présent auprès de ceux qui en ont besoin. Éternel notre Dieu, nous avons entendu que Jésus, le Fils, est notre frère. Aide-nous à être frères, à être sœurs de tous ceux qui nous entourent, d'avoir des paroles positives, des pensées positives pour nous, pour les autres. Aide-nous à être présents auprès de ceux qui ont beaucoup de soucis, de ceux qui ont de graves maladies, de ceux qui ont moins de biens matériels que nous. Aide-nous à être accueillants comme toi, tu nous as toujours accueillis. Et ensemble, nous allons maintenant dire une prière qu'on a appris par cœur, ça nous permet de la dire, mais on va essayer de la dire calmement pour essayer de bien comprendre et adhérer le plus possible à ce que nous disons, de vivre ce que nous disons. Cette prière, c'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée il y a longtemps. Et aujourd'hui, on va encore la dire pour être en lien avec Dieu et pour être en lien avec toute l'Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous pouvons nous lever pour recevoir une parole d'envoi. Quand nous avons entendu ou appris ou réentendu cet essai de compréhension de Dieu, comment comprendre Dieu, en parlant de Trinité, en parlant de Père, de Fils et de Saint-Esprit, c'est une manière de nous dire que nous croyons en un Dieu de relation, de lien. Un appel pour que nous soyons en lien avec les autres. Que nous ne soyons pas séparés, que nous ne pensions pas seulement à nous. Il est important de penser à soi, mais pas seulement à soi. Alors nous sommes donc envoyés pour poursuivre ce cheminement de notre vie, parfois compliquées, parfois avec de grandes joies et de grandes espérances. Et sur ce chemin, nous trouvons toujours, comme le grand frère, Jésus qui nous accompagne pour nous montrer l'avenir, pour nous guider pour tout ce qui nous attend dans ce monde. Et pour vivre sur ce chemin de la vie, nous avons besoin de force, de nourriture spirituelle, de la bienveillance de Dieu. Cette bienveillance, c'est ce que nous appelons la bénédiction. Cette bénédiction, c'est celle de Dieu lui-même, qui nous aime et qui veut que nous puissions être nous-mêmes dans la bienveillance et la bénédiction des autres. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous bénit, qui vous garde, qui vous accompagne. Amen. Et nous pouvons chanter notre spontané. Très fort de cette